Irak. La guerre américaine pour le pétrole n'en finit pas. Le texte ci-dessous est la traduction d'un article du groupe trotskiste américain The Spark, publié dans leur revue trimestrielle Class Struggle, numéro 73, de février-mars 2012, quelques semaines après qu'Obama eut annoncé le retrait complet des troupes américaines d'Irak et le, entre guillemets, succès complet de leur mission. L'article revient sur les raisons de cette guerre et sur les objectifs de l'impérialisme américain qui n'ont rien à voir avec les discours officiels. À la fin du mois de décembre, le président Obama a annoncé la fin de l'occupation de l'Irak et de la terrible guerre de 9 années menée par les États-Unis. Essayant de dresser un tableau flatteur de la guerre, il n'hésita pas à la qualifier de, entre guillemets, réussite remarquable. Obama a même promis aux soldats américains de retour d'Irak que, entre guillemets, toutes les batailles et les morts, le sang et la reconstruction, la formation et le partenariat ont tous permis d'atteindre le succès actuel. Nous laissons derrière nous un Irak souverain, stable et autonome, disposant d'un gouvernement représentatif et élu par son peuple. La description d'Obama n'a rien à voir avec la réalité de cette guerre ou avec la situation en Irak. Les États-Unis ne quittent pas l'Irak. Le gouvernement américain a seulement remplacé ses propres troupes par une importante armée de mercenaires payés par lui. En octobre, Jason Kaffetz, élu républicain de l'Utah à la Chambre des représentants, a ainsi décrit, entre guillemets, une forte augmentation du personnel des sociétés militaires privées en Irak. 17 000 personnes et 5 500 employés dans le secteur de la sécurité privée. D'autres estiment le nombre de ces mercenaires à 35 000, nombre qui serait appelé à croître encore à l'avenir. L'ambassade américaine à Bagdad, qui se situe dans l'enclave fortifiée de la zone verte, entre parenthèses « Green Zone », est devenue de loin la plus grande ambassade au monde, se transformant en une petite ville de 17 000 employés mercenaires, membres de forces de sécurité, etc. Le département d'État américain, entre parenthèses le ministère des Affaires étrangères, dirige également 3 autres grands centres, un à Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, un à Bassora, le port principal du sud riche en pétrole, et un à Kirkuk, situé dans la très convoitée région du nord riche en pétrole. Les États-Unis possèdent 7 installations supplémentaires à travers le pays. Cela fait ainsi un total de 11 sites opérationnels qui sont autant de centres nerveux, de bases autonomes fortifiées installées au point stratégique. Selon le New York Times, entre parenthèses 30 novembre 2011, l'armée américaine maintient officiellement quelques centaines de soldats comme, entre guillemets, formateurs ou conseillers sous l'autorité de l'Office of Security Cooperation, entre parenthèses OSC, pour assurer, entre guillemets, dans une très large mesure, la continuité de la relation américano-irakienne en matière de sécurité. De manière non officielle, un grand nombre de forces spéciales et d'agents de la CIA travailleront sous le commandement unifié des opérations spéciales, entre parenthèses, Joint Special Operations Command, comme l'a reconnu l'ambassadeur américain James Jeffrey au cours d'une interview télévisée avec Ted Koppel, entre parenthèses, un journaliste de télévision très connu aux États-Unis, le 12 décembre 2011. En outre, les États-Unis renforcent un contingent déjà fort de 40 000 soldats dans les autres pays du Golfe Persique, entre parenthèses, sans inclure les troupes postées en Afghanistan. En décembre, par exemple, l'armée américaine a augmenté de 4 000 le nombre de soldats installés au Koweït, petit pays frontalier de l'Irak, qui s'élève ainsi à 27 000. Un nombre incalculable d'avions et de missiles américains peuvent bombarder l'Irak à tout moment, en partant de la 5e flotte de l'US Navy qui patrouille dans le golfe Persique ou de l'une des bases militaires aériennes américaines situées dans les pays voisins de l'Irak. En d'autres termes, les États-Unis ont simplement changé de façon d'intervenir militairement. Le Wall Street Journal du 10 décembre 2011 a précisément relevé ce fait en titrant, entre guillemets, « l'Irak vers une nouvelle et large emprise des États-Unis ». Dans cet article, le journal décrit comment, entre guillemets, l'implication des États-Unis est tout sauf interrompue. À la place de l'armée, c'est le département d'État qui assumera un nouveau rôle à une échelle sans précédent. Les soldats américains sont désormais considérés comme des, entre guillemets, employés du département d'État. Quant aux vantardises d'Obama, qui prétend que la guerre des États-Unis a amené la, entre guillemets, stabilité en Irak, elle serait risible si la situation n'était pas si tragique. Les propres données accessibles du gouvernement américain montrent à quel point l'Irak demeure un des pays les plus violents et les plus dangereux de la planète. Près de 30% des attentats terroristes dans le monde se produisent en Irak. La violence en Irak serait même plus élevée qu'en Afghanistan, si l'on en croit le rapport trimestriel de l'inspecteur général spécial pour la reconstruction irakienne, entre parenthèses, Quarterly Report of the Special Inspector General for Iraq Reconstruction, 30 octobre 2011. Cette violence s'aggrave même. Le 23 décembre, une série d'explosions a frappé Bagdad, détruisant des écoles, des marchés, des appartements, tuant au moins 67 personnes et en blessant 185 autres. Ce fut la journée la plus meurtrière depuis plus d'un an. Le 2 janvier, le bilan a été encore pire avec 72 tués à Bagdad dans une autre série d'explosions. À cela, il faut encore ajouter les luttes de pouvoir au sommet du gouvernement qui contribuent certainement à accroître les conflits ethniques et religieux dans la société irakienne. Juste après le départ du dernier convoi de soldats américains d'Irak le 18 décembre, Maliki, le chef du gouvernement de coalition irakien, s'est attaqué à des membres de son propre cabinet, ceux qui appartenaient au plus grand parti de sa coalition, parti qui avait obtenu plus de votes que le propre parti de Maliki aux dernières élections. Un mandat d'arrêt pour acte de terrorisme fut émis à l'encontre du vice-président Tariq al-Hashemi, qui fut forcé de trouver refuge au Kurdistan irakien. Deux jours plus tard, Maliki mettait son propre vice-premier ministre, Saleh al-Mutlaq, entre guillemets, en congé prolongé. Peu après, une bombe a explosé sur la route lors du passage du ministre des Finances, Rafi al-Essaoui, qui ne fut pas lui-même touché, mais deux de ses gardes du corps furent gravement blessés. La violence mortelle qui frappe l'Irak aujourd'hui est une conséquence de la stratégie américaine de diviser pour régner. Dès le début de la guerre, les États-Unis ont divisé les postes gouvernementaux en fonction des cliques religieuses et ils ont encouragé la formation de milices et de gangs dirigés par des seigneurs de guerre et par des chefs tribaux. Un bourbier, entre guillemets, réussi. Les États-Unis se sont lancés dans cette guerre avec l'idée, en tout cas pour le gouvernement Bush, que son armée renverserait Saddam Hussein et imposerait son propre ordre dans le pays. Au lieu de cela, après près de 9 années, l'armée américaine se retire d'Irak la queue entre les jambes. Lorsque les États-Unis ont retiré leurs soldats le 18 décembre 2011, ils ne l'ont pas fait en fanfare et étendards au vent. Au contraire, les derniers contingents sont partis furtivement au beau milieu de la nuit, accompagnés d'une armada d'hélicoptères qui surveillaient le sol pour parer à des attaques de roquettes et de blindés. Les militaires américains avaient visiblement si peu confiance en leurs homologues de l'armée irakienne qu'ils ont délibérément trompé leurs plus proches collaborateurs irakiens en leur faisant croire qu'ils les rencontreraient encore le lendemain. Il était évident qu'après 9 années de guerre, les États-Unis avaient créé un nouveau bourbier. Dès l'été 2009, les États-Unis retiraient leurs soldats des villes et bourgs irakiens, essayant ainsi de réduire la visibilité de la présence américaine en Irak et aussi par la même occasion de réduire le nombre de cibles américaines à la portée des insurgés. Un an après, l'armée américaine mettait officiellement fin à toutes ses missions de combat et plaçait ses troupes dans des bases solidement fortifiées qu'elle n'allait que rarement quitter. Mais les États-Unis ne pouvaient même pas vraiment protéger ces bastions. Le New York Times, entre parenthèses 26 juin 2011, rapportait que les attaques de roquettes et de mortiers contre les bases américaines s'étaient accrues au cours de l'année. En juin 2011, par exemple, 14 soldats américains avaient été tués au cours d'attaques contre leurs bases. Même dans la très fortifiée zone verte où trônait leur gigantesque nouvelle ambassade, les États-Unis restaient vulnérables. Des roquettes et des missiles ont atteint la zone verte lorsque le vice-président Joseph Biden y effectua une visite surprise en juillet 2010. La zone fut également bombardée au cours de la visite du ministre de la Défense, Léon Panetta, en juillet 2011. La présence même des troupes américaines accrut le ressentiment au sein de la population irakienne. Les médias américains qui couvraient la fin de l'occupation eurent beaucoup de mal à trouver auprès des Irakiens l'expression d'un autre sentiment que, entre guillemets, « bon débarras ». Ali Jassem, un ouvrier sans emploi de 32 ans à Bagdad, déclarait au New York Times, entre guillemets, « ils », entre parenthèses les Américains, n'ont rien réalisé, ou disons plutôt qu'ils ont réalisé des bombardements, des tueries et des explosions. Ils ont fait de fausses promesses. Ils ne nous ont rien apporté de bien à nous, le peuple. Ils ont juste amené des politiciens qui ne se préoccupent que de leurs propres intérêts. » La colère contre l'occupation américaine était si forte que le Times a rapporté, entre guillemets, qu'il est significatif que dans les zones sunnites comme chiites, il y en a pour dire que la vie était meilleure au temps de M. Hussein, même ceux qui tremblaient encore au souvenir de la nature dictatoriale du régime. Entre parenthèses, 13 décembre 2011. La quasi-décennie de guerre a engendré de vrais problèmes au sein même de l'armée américaine. Depuis l'envoi de troupes supplémentaires en 2006-2007, des généraux, y compris au plus haut niveau, ont ouvertement fait part de leur inquiétude quant aux effets de la guerre en Irak combinée à celle d'Afghanistan sur leur armée. Cela a généré un énorme stress pour les soldats qui ont été envoyés 3, 4, voire 5 fois dans les zones de combat. Parmi ceux qui ont servi en Irak ou en Afghanistan, 625 000 soldats démobilisés se sont inscrits pour obtenir des allocations d'invalidité. La démoralisation des soldats se reflète dans le fait que le nombre de suicides de soldats d'actifs ou de soldats démobilisés est plus élevé que le nombre de soldats américains tués en Irak. Les envois répétés dans les zones de combat risquaient de, entre guillemets, briser l'armée, ou tout au moins de limiter fortement la capacité de l'armée à gérer d'autres, entre guillemets, crises ou imprévus, comme les appellent les généraux. Ensuite, il y a le problème de l'argent. Jusqu'ici, la guerre a coûté 800 milliards de dollars en 9 ans. Si l'on ajoute les autres dépenses, en incluant les intérêts de la dette de l'État et le coût actuel des soins médicaux pour les vétérans, le coût total de la guerre s'élèverait à 4 000 milliards de dollars, selon les économistes Joseph Stiglitz et Linda Bimels. Le général Karl R. Horst, chef d'état-major du commandement central, a marqué son soutien enthousiaste au retrait de ses troupes d'Irak en déclarant au New York Times, entre parenthèses, 29 octobre 2011, entre guillemets, « je pense que c'est sain, je pense que c'est efficace, je pense que c'est pragmatique ». En d'autres termes, c'est, entre guillemets, « sain » pour l'armée, et c'est à la fois une manière, entre guillemets, « efficace et pragmatique » de protéger les intérêts des compagnies pétrolières qui, dans cette situation désastreuse, se contentent de contrôler quelques régions du pays, les régions où se trouve le pétrole. Ils ont obtenu ce pourquoi ils étaient venus, le pétrole de l'Irak. En détruisant le vieil appareil d'État de Saddam Hussein, les États-Unis ont desserré l'emprise de l'État irakien sur l'industrie pétrolière. Et en jouant les divisions et les tensions ethniques et religieuses au sein du pays, les États-Unis ont potentiellement divisé cette industrie en deux. Une partie contrôlée par le gouvernement central irakien et l'autre contrôlée par le gouvernement régional du Kurdistan irakien dans le nord du pays. Les compagnies pétrolières se sont empressées de jouer les uns contre les autres. ExxonMobil, la plus grande compagnie pétrolière du monde, a signé un contrat avec le gouvernement central pour l'extraction des champs pétrolifères du sud près de Bassora, région d'où provient aujourd'hui la plupart du pétrole irakien. Fin novembre, ExxonMobil a signé un contrat qui lui était bien plus favorable avec le gouvernement kurde pour des opérations de forage dans le nord du pays. Le gouvernement maliki a menacé ExxonMobil de l'empêcher d'obtenir de nouveaux droits d'exploitation dans le sud. Mais ces menaces n'ont pas l'air d'avoir inquiété Royal Dutch Shell, Chevron et l'italien Eni, qui ont annoncé qu'ils étaient eux aussi prêts à signer un accord avec le gouvernement régional kurde. Si le gouvernement kurde arrive à maintenir un contrôle sur les ressources pétrolières qui se trouvent sur son territoire, cela encouragera les autres gouvernements régionaux à faire de même. Cela pourrait déclencher une nouvelle vague de combats entre des groupes de seigneurs de guerre, de chefs tribaux et ou religieux qui se disputeraient les miettes laissées par les multinationales pétrolières et bancaires. Le résultat pourrait bien être un morcellement encore plus grand du pays, une balkanisation qui laisserait les réserves pétrolières encore plus vulnérables au pillage. Évidemment, la production de pétrole a fortement été réduite du fait de l'invasion américaine et de la guerre civile qui s'en est suivie. Cependant, les grandes multinationales pétrolières et les grandes banques qui les soutiennent ont obtenu le contrôle d'une bien plus grande partie de la future production pétrolière irakienne et de ses profits qu'auparavant. Il ne faut pas sous-estimer la valeur de ce butin. Les réserves pétrolifères connues de l'Irak sont aujourd'hui les troisièmes au monde, et les géologues internationaux considèrent que des territoires encore non explorés recèleraient des réserves encore plus importantes. Ces réserves se situent à un faible niveau de profondeur, ce qui rend leur coût d'exploitation très bas, à peine 1 dollar le baril, en comparaison avec l'exploitation plus difficile des gisements en haute mer ou dans la toundra arctique. Ce pétrole est de haute qualité, ce qui rend son raffinage facile et peu coûteux. La balkanisation de l'Irak peut, bien sûr, entraîner plus de désordre, avec tous les risques que cela comporte pour l'industrie pétrolière. C'est pourquoi le gouvernement américain renforce les forces de mercenaires sous le contrôle du département d'État, et les compagnies pétrolières accroissent également leurs propres forces de sécurité et leurs mercenaires. L'année passée, une vague de protestations a éclaté à travers tout le pays et s'est prolongée pendant plusieurs semaines. Les manifestants exigeaient de meilleurs services sociaux, de l'électricité, de l'eau, des prix stables pour la nourriture, plus d'emplois, moins de corruption. Entre parenthèses, l'Irak est le quatrième pays le plus corrompu au monde selon Transparency International. Et des réformes du système de gouvernement. Une grande partie de la colère fut également dirigée contre l'occupation américaine. Les manifestations ont varié en ampleur selon les endroits, mais elles ont eu lieu à travers tout le pays, de Bassora au sud, à Bagdad et Tikrit au centre, et jusqu'à Mossoul au nord et Sulaymaniyah dans la région autonome kurde. Elles traversaient les clivages sectaires et religieux. Les plus grands dirigeants religieux, comme Moqtada al-Sadr, dont la base se situe dans les taudis chiites de Bagdad, et le grand ayatollah Ali al-Sistani s'opposèrent aux manifestations. Parallèlement, le gouvernement répondit par la force. De nombreuses sources rapportent que la police a tiré à balles réelles sur les manifestants, utilisé des gaz lacrymogènes, organisé des passages à tabac et procédé à des milliers d'arrestations. Après les avoir accusés d'avoir dirigé les manifestations, le gouvernement maliki a fermé les locaux du Parti communiste irakien et du Parti national irakien. L'opposition de la hiérarchie religieuse et la répression de l'appareil d'État rassurèrent les impérialistes américains au moment où ils s'apprêtaient à retirer leurs troupes d'Irak. Cela montrait que les autorités irakiennes pouvaient exercer un contrôle suffisant sur la population pour que la production de pétrole puisse se poursuivre. Le prix payé par la population irakienne. Cette guerre a réduit ce pays en cendres. L'avenir de la population est déjà très sombre, alors que la poursuite de la division du pays et la possibilité d'une guerre civile menacent de provoquer des désastres supplémentaires en plus de ceux qu'a déjà subi la population irakienne. Les civils constituent de loin la majorité des personnes tuées au cours des 9 années de guerre. Les registres de l'armée américaine divulgués par WikiLeaks énumère 122 000 civils tués. Selon l'enquête effectuée par l'ONG Just Foreign Policy, il y aurait près de 1,5 million de civils tués directement par la guerre ou à cause des conditions de vie créées par la guerre. La CIA estime que le PIB par habitant est si bas que l'Irak est relégué à la 161e place dans le monde, alors qu'avant les deux guerres des États-Unis contre le pays, il était en tête du Moyen-Orient. L'Iran, après avoir subi des années d'embargo américain, des sanctions, des assassinats de ses scientifiques ou d'autres actes d'une guerre secrète, tient la 104e place, loin devant l'Irak. Même les infrastructures les plus élémentaires sont pratiquement inexistantes. La plupart des 64 milliards de dollars que les États-Unis ont officiellement dépensés à la reconstruction de l'Irak ont seulement enrichi les grandes entreprises de construction américaines et une poignée de nantis irakiens. La population se retrouve avec peu ou pas d'électricité et d'eau potable pendant que les eaux usées inondent les rues. La population des villes et des bourgs proches des zones de production pétrolière Tel Bassora, la deuxième plus grande ville du pays, vit dans la suie et la fumée. Les États-Unis ont largué en Irak des milliers de bombes comportant de l'uranium appauvri, un déchet radioactif qui provient de la production d'énergie nucléaire. Les chercheurs britanniques ont révélé une augmentation massive de la mortalité infantile et des taux de cancer dans des villes comme Fallujah, qui furent lourdement bombardées, supérieurs à, entre guillemets, ceux observés chez les survivants des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Dans la province de Babil, le nombre de cancers avérés a grimpé de 500 en 2004 à 7000 en 2008. À Bassora, le taux de leucémies infantiles a plus que doublé en 15 ans, selon une étude publiée par l'American Journal of Public Health, il y a 2 ans. Alors que les États-Unis retiraient leurs derniers soldats du pays, certains journalistes se sont rendus dans la ville de Fallujah, à l'ouest de Bagdad, que les États-Unis ont assiégée et attaquée de manière massive à 2 reprises en 2004 pour essayer de briser la résistance à l'occupation. Dans cette ville de 300 000 habitants, les médecins de l'hôpital local ont constaté la mort de près de 2000 civils, surtout des femmes, des enfants et des personnes âgées, et l'on continue encore à extraire des squelettes des bâtiments bombardés. La majorité des habitants furent déplacés de leur domicile au cours du siège. La plupart sont revenus, mais il existe des milliers de sans-abri. Après le siège, le gouvernement a promis un programme de reconstruction. 2 des projets avaient notamment été mis en avant, une station d'épuration de l'eau et un projet de traitement des eaux usées lancé en 2004. 7 ans après, le système d'égout n'est pas achevé et la fin des travaux reste en suspens. La station d'épuration fournit de l'eau potable pour moins de 20% de la population. Les quartiers qui ont subi l'attaque de plein fouet ont aujourd'hui des routes sales et poussiéreuses, encombrées de détritus. Entre guillemets, tout va mal ici, déclarait un boulanger à un journaliste d'Al Jazeera, entre parenthèses, 3 janvier 2012. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de bons soins médicaux. Nous avons entre 75 et 80% de chômeurs. Les veuves n'ont pas de droits, pas d'indemnité. Les luttes religieuses, engendrées par la guerre, ont poussé des familles à la rue. Parmi celles qui sont revenues, nombreuses sont celles qui sont à nouveau chassées par la reprise des combats. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime qu'il y a encore 5 millions d'Irakiens qui ont fui leur domicile. Près de 3 millions sont des réfugiés dans leur propre pays. Une grande partie d'entre eux sont entassés dans les 380 camps de réfugiés dispersés à travers le pays. Ils ont peu d'accès à l'eau propre, aux sanitaires ou aux soins médicaux. Nombreux sont considérés comme des squatteurs illégaux et ils ne peuvent pas obtenir les papiers administratifs nécessaires pour recevoir des allocations sociales, obtenir un emploi ou inscrire leurs enfants à l'école. 2 autres millions d'Irakiens ont fui l'Irak pour les pays voisins, entre parenthèses Jordanie, Liban, Égypte et Syrie, avec peu d'espoir de s'insérer dans les communautés locales ou même d'obtenir un permis de séjour pour pouvoir avoir un emploi. Ceux qui se trouvent en Syrie, avec la montée de la violence, sont à nouveau déracinés et forcés de chercher un nouveau refuge. Les femmes ont été particulièrement touchées. La guerre, les difficultés économiques et la poussée de l'extrémisme religieux ont entraîné une forte hausse de la violence à l'encontre des femmes, notamment des crimes entre guillemets d'honneur, des viols et des kidnappings. Avant la première guerre du Golfe en 1991, l'Irak avait l'un des taux d'alphabétisation des femmes les plus élevés du Moyen-Orient. Il y avait en Irak plus de femmes employées dans des professions qualifiées, comme la médecine et l'enseignement, ou comme ouvrières, que dans la plupart des autres pays de la région. Aujourd'hui, la plupart des femmes sont forcées de rester à la maison, sans emploi et sans éducation. De nombreuses femmes irakiennes qui ont fui dans les pays voisins se sont retrouvées incapables de nourrir leurs enfants. Pour joindre les deux bouts, des dizaines de milliers d'entre elles, parmi elles des filles de 13 ans ou moins, ont été forcées de se prostituer. Des bulldogs de l'impérialisme, mais aussi des victimes. Une autre génération d'Américains a été transformée en pitbull de l'impérialisme, souffrant eux-mêmes de la destruction morale, physique et psychologique qu'une telle guerre impose à l'armée impérialiste elle-même. Aux quelques 5000 tués de la guerre, il faut ajouter les suicides qui continuent de progresser année après année au fur et à mesure que les soldats reviennent. Selon l'Association des vétérans, toutes les 80 minutes, un vétéran des guerres d'Irak et d'Afghanistan tente de se suicider, soit 18 par jour ou 6600 par an. Il y a aussi l'augmentation de la violence à domicile, de l'alcoolisme, de la drogue, etc. Les rapports du Pentagone ne mentionnent l'existence que de 32 226 blessés, ce qui sous-estime largement leur nombre réel. Plusieurs études ont été réalisées par le propre centre des traumatismes cérébraux du Pentagone, par la RAND Corporation, entre parenthèses, groupe de réflexion travaillant sur des questions militaires et proches du Pentagone, par le New England Journal of Medicine, entre parenthèses, une des revues scientifiques de médecine les plus renommées, et par le Department of Veterans Affairs, entre parenthèses, ministère des anciens combattants. Ils estiment qu'un tiers de tous les hommes et femmes reviennent de mission en Irak avec des traumatismes cérébraux, des stress post-traumatiques, des dépressions, des pertes d'ouïe, des problèmes respiratoires, des maladies et autres problèmes de santé de long terme. Des centaines de milliers de soldats qui ont été brutalisés physiquement et psychologiquement reviennent dans un pays où ils doivent faire face à des problèmes passés sous silence. Premièrement, obtenir des soins médicaux adéquats, un emploi et un domicile. Ce pays leur rend hommage en les présentant comme des entre guillemets héros de retour, mais ne reconnaît pas les dommages qu'ils ont subis. Sans issue. Les États-Unis ont détruit un pays entier, ont imposé à la population irakienne une descente dans le chaos et la barbarie, et une guerre qui, depuis le départ, était basée sur un tissu de mensonges. Cette guerre était dirigée par les intérêts des compagnies pétrolières, d'autres grandes multinationales et des plus grandes banques. À ces 9 dernières années, il faut ajouter le prix sanglant déjà payé par le peuple irakien lors de la guerre Iran-Irak entre 1980 et 1988 que les États-Unis avaient encouragé, ainsi que la première guerre du Golfe en 1990-1991 et les bombardements intensifs qui l'ont suivi depuis. Le dernier chapitre de la guerre des États-Unis contre l'Irak n'est pas encore clos pour le peuple irakien, loin s'en faut. Et c'est une guerre pour laquelle les soldats des États-Unis ont aussi payé un lourd tribut. Cette guerre n'est pas finie et ce ne sera pas non plus la dernière des guerres de l'impérialisme américain. La guerre en Irak donne l'image exacte de l'impact gigantesque et barbare de l'impérialisme, du prix humain qu'il impose aux populations à travers le monde, y compris aux États-Unis, tout cela pour obtenir quelques dollars de profit supplémentaires. 22 janvier 2012.